qui nous ont conduit vraiment dans la louange, qui nous a aussi permis d'ouvrir notre cœur pour vraiment rencontrer le Seigneur. Je pense que déjà ce matin, nous avons beaucoup entendu l'importance de la foi inébranlable que nous devons avoir, quoi qu'il nous arrive dans les différentes situations. Nous avons aussi vu l'importance, à travers la louange, de suivre en Jésus seul, qui est notre espérance. Ce matin, c'est un petit peu dans la continuité du message que je vous avais apporté il y a 2 semaines de cela. Je vous avais parlé de l'importance de l'amour du prochain. Et dans cet amour du prochain, il était aussi important, enfin je pense que Paul avait apporté une certaine définition sur l'humilité que nous avons besoin pour justement aimer notre prochain. Et dans cette définition, il disait qu'il faut justement regarder les autres comme au-dessus de nous-mêmes. C'est ça que la définition que Paul avait apportée aux Philippiens. C'est dans cette idée-là que j'aimerais vous apporter. J'espère que vous allez bien. Oui. 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 En forme. c'est vrai que aussi la semaine dernière, nous avons eu aussi une assemblée générale qui s'est terminée. Et je ne sais pas comment vous avez ressenti l'Assemblée Générale. Pour moi, j'ai senti une certaine tension qui existait durant cette Assemblée Générale que je n'avais pas ressenti depuis très très longtemps. Je pense que c'est peut-être que nous n'avons pas eu la réunion de partage, que ça s'est fait comme ça. Ou peut-être parce que il y a une frustration dans nos cœurs. Car l'Église n'est plus, c'est vrai, notre Église n'est plus une Église accueillante, chaleureuse, dans laquelle il y avait une profonde communion fraternelle. Pourquoi ? Parce que, parce que c'est le Covid. Hein. Nous ne pouvons plus avoir une communion assez profonde, sincère avec des autres personnes, parce que nous devons respecter une certaine distanciation, et aussi nous devons respecter un certain règlement sanitaire que l'État nous exige. Et parfois, ça nous agace, non ? Moi, ça m'énerve de ne pas pouvoir embrasser les gens, côtoyer les gens quotidiennement. Ça m'énerve aussi de ne pas pouvoir visiter les personnes malades, parce que même si je n'ai pas de symptômes, je fais aussi attention pour les personnes fragiles. Il y a aussi par exemple Akorfa qui vient d'avoir un enfant, Jocelyne, je ne peux pas les visiter, j'ai un peu peur pour ça. Et donc c'est vrai qu'il n'y a plus de communion fraternelle, enfin pas autant qu'avant en tout cas, et ça reste, il y a une frustration. Et malgré tout, même si les situations ont changé, l'Église reste une Église. Et que Jésus, en parlant de l'Église, il disait que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Oui, les pouvoirs de la mort ne peuvent rien faire contre l'Église qui apporte la vie à ceux qui ont besoin justement d'entendre. Même si nous vivons en ce moment donc moins de communion et que nous avons peut-être une certaine frustration, nous devons continuer à briller dans le monde et nous devons s'enraciner dans la parole, grandir dans la maturité, porter du fruit, pour que le monde voit les bonnes œuvres que nous pouvons porter en nous. Voilà, un petit peu pour mon introduction. Dans l'Église, dans la Bible, il y a quand même des personnes où nous pouvons rencontrer certaines personnes qui étaient en tension avec d'autres chrétiens. Entre les chrétiens, il peut y avoir des tensions. Et sur ce, j'aimerais vous inviter à lire dans Philippiens, chapitre 4, versets 1 et 2. Voilà. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Voilà donc une sollicitation de la part de Paul de rester ferme dans le Seigneur. Nous avons tant chanté encore ce matin d'être ferme dans le Seigneur. Et j'exhorte Évodie et Saint-Tiche, et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Voilà donc une parole que Paul laisse aux Philippiens. pour le contexte, j'aimerais juste vous rappeler que vous savez que l'église de Philippe est la première église du continent européen. Au début, l'église de Philippe n'était pas dans le planning missionnaire de Paul. Paul était, enfin, avec son compagnon Silas, était plutôt parti pour l'Asie, et puis le Saint-Esprit les a empêchés d'annoncer la parole en Asie. Et c'est pour cela qu'ils avaient changé de direction et ils sont allés finalement à la Macédoine, c'est-à-dire aujourd'hui au nord de la Grèce. Bref, lorsque Paul arrive à Philippe, il évangélise d'abord un groupe et puis une certaine Lydie, une marchande influente, avec qui justement Philippe et Silas vont créer une église. C'est durant tout cela, la première voyage missionnaire, celle-ci donc ouvre la voie à l'évangile dans cette région. Et oui, aussi, c'est le début du christianisme. En tout cas, en l'an 61-62, Paul est emprisonné à Rome pour être jugé par César. Et à ce moment-là, l'église de Philippe lui envoie des nouvelles, et notamment justement les nouvelles d'Évodie et Saint-Tige, que Paul a bien connues, qui étaient des responsables de l'église, qui ont été des collaborateurs de Paul. Mais apparemment, il y a eu une tension entre les deux. Alors, Paul, justement, leur envoie cette lettre pour qu'il y ait un affermissement de leur foi sur le Christ, mais aussi qu'il y ait une réconciliation, ou plutôt de régler tout cela au plus vite, cette tension. En tout cas, ce que nous pouvons voir, c'est que même entre les responsables, il peut y avoir des tensions possibles. Et puis, au verset 3, il est dit que « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. » Je ne sais pas qui est ce fidèle collègue. On a plusieurs suppositions, mais en tout cas, ça devait être un collègue de travail que Paul avait l'habitude de côtoyer. « Oui, je te prie de les aider. » De les aider, elles, qui ont combattu pour l'Évangile avec moi. Et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Voilà, nous avons collaboré ensemble, nous avons travaillé ensemble, nous avons fait tout pour que l'Église avance, pour que le royaume de Dieu se répande dans le monde. Et que surtout tous ces collègues avec qui j'ai travaillé, leurs noms sont dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Pourquoi il y avait cet conflit entre Évodie et Saint-Tige? La Bible ne nous en parle pas. On pourrait peut-être deviner. Vous savez, il suffit de voir dans nos églises, ou même les églises d'ailleurs, pour voir qu'il peut y avoir des conflits relationnels. Imaginez quelqu'un qui est super carré, qui travaille avec quelqu'un qui est super... comment on peut dire ça? Flexible, spontané, artiste, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont pouvoir bien collaborer? C'est possible, bien sûr, par la grâce de Dieu. Mais il pourrait y avoir aussi des conflits relationnels entre ces deux personnes. Tout est possible, c'est vrai. Ou bien tout simplement parce que nous avons une certaine divergence d'opinion. Divergence d'opinion. Par exemple, je suis en train de suivre quelqu'un qui a commis une grande faute. C'est pas quelqu'un de notre église, ne vous inquiétez pas. Il y a une certaine catégorie de personnes qui ont maintenant la tolérance, c'est-à-dire il lui pardonne puisqu'il a demandé pardon. Mais d'autres groupes de personnes n'arrivent pas à l'accepter comme les siens parce que il a commis une faute énorme, inadmissible. Donc voilà, il peut y avoir une tension entre deux groupes. Voilà. On pourrait avoir une tension entre un chrétien un peu légaliste et entre un chrétien un peu trop ouvert. Voilà. Ça vous dit... Il peut y avoir ce genre de cas. Donc oui, on pourrait supposer plein de raisons de leur conflit entre Évodie et Saint-Tige. Mais Paul nous dit de changer notre cœur, d'avoir un même sentiment, Paul avait déjà enseigné cela donc dans chapitre 2, à partir de verset 1, où il dit que rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment. Pour régler tous ces conflits, il faut avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que, c'est ce que j'avais prêché il y a 2 semaines, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il faut avoir cette humilité pour pouvoir aussi entourer la personne, aimer la personne, pardonner la personne, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous avons tout à l'heure chanté « En Jésus seul ». Nous avons tout à l'heure chanté « Je te suivrai Jésus ». Je ne sais pas comment vous avez chanté tout à l'heure la louange. Ça m'a beaucoup fait parler, mais c'est vrai que c'est une grande confession. Hein? Moi, je vois des gens qui peuvent chanter, mais ne pas vivre ce qu'ils chantent. Mais il est quand même important de non seulement chanter, mais aussi de la vivre. Très important. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En tout cas, je disais que, oui, il est difficile d'imaginer comment Évodie et Saint-Tiche ont eu des soucis relationnels, mais en tout cas, je suppose que suite à cette lettre, elles se sont réconciliées. Pour dire que même des grands hommes, des grands collaborateurs, des grands qui ont œuvré pour le Seigneur, dont leur nom est écrit dans le livre de vie, peuvent avoir des conflits relationnels. Tout est possible. Dans le champ des missions, nous voyons aussi, je vois, beaucoup de missionnaires qui ne sont pas d'accord entre eux et ils ont du mal à collaborer ensemble. Bon, parfois, ils apprennent aussi dans cette brouhaha à collaborer ensemble. Enfin, bref, j'aimerais aussi vous inviter encore à voir un autre personnage, deux personnages, des grands noms, c'est Paul et Barnabas. Au moins, pour eux, nous savons pourquoi ils se sont disputés. Vous le savez que Paul est un grand homme, je ne vous explique même pas qui il est. Vous connaissez aussi Barnabas, c'est le frère aîné spirituel de Paul au départ. C'est lui qui l'a ramené dans le ministère, c'est lui qui l'a épaulé pour que Paul ait un vrai ministère à Antioche. Et puis, il a été apprécié par tout le monde. Même, on le surnommait le fils d'exhortation, tellement que ce Barnabas était un homme vraiment qui pouvait apporter la joie, la réconciliation, qui pouvait justement changer, transformer l'ambiance d'un groupe. Mais voilà, ces deux grands hommes, deux grands hommes, ont eu quelques conflits. On va voir ça dans Actes chapitre 15. Peut-être je vais vous lire à partir de verset 37. Voilà, donc juste pour le contexte, Paul et Barnabas, après la bénédiction de l'église d'Antioche, ils ont été envoyés comme missionnaires pour faire leur premier voyage. Ils ont fait un grand voyage où ils ont implanté plein d'églises et puis ensuite ils sont venus rapporter un peu tout ce qui s'est passé à Jérusalem lors d'un synode pour aussi régler certains problèmes parce que certains judaïsants, c'est-à-dire les juifs qui ont accepté Jésus-Christ, ont voulu imposer certains règlements aux autres chrétiens païens qui n'étaient pas encore circoncis. Ils ont exigé que les païens soient circoncis et que Paul et Barnabas étaient venus justement pour dire que non, il ne faut pas être comme ça. Et puis, pour régler tous ces problèmes-là, donc Paul et Barnabas étaient à Jérusalem. Ensuite, ils sont convaincus que Il faut repartir pour faire un deuxième voyage missionnaire. Et au verset 37, Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Voilà un peu l'événement où Paul, un grand homme, Barnabas, un grand frère spirituel pour Paul, se dispute. En tout cas, après ce premier voyage missionnaire, après avoir exposé les miracles que le Seigneur a fait auprès des païens, après avoir réglé certains problèmes doctrinaux, Paul est convaincu qu'il faut repartir. Il exprime le désir de revoir les frères qu'ils ont côtoyés pendant leur premier voyage. Au verset 36, il est dit que quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Voilà, non seulement ils les ont implantés, les églises, mais il avait à cœur de tous ces frères qu'ils avaient rencontrés, il avait à cœur pour que ces églises qu'ils avaient implantées grandissent davantage, croissent. Et donc, peut-être il s'est souvenu, dans telle église, à Antioche de Pisidie, ou à Icône, à Lystre, à Derbe, où nous avons implanté, peut-être que certains frères, maintenant, qui ont vécu certains problèmes, est-ce qu'ils, maintenant, tout s'est réglé? Voilà, donc, toutes ces choses. Ils avaient, en tout cas, à cœur de tous ces frères, toutes ces églises. Et ils voulaient vraiment savoir si tout allait bien. Et ils voulaient se rendre dans ces lieux, pour les encourager et aussi pour les aider à grandir. Partir avec Barnabas était un peu au début le premier objectif de Paul. Puis Barnabas était d'accord, bien sûr, de partir avec Paul, puisqu'ils ont réalisé plein de miracles et plein d'œuvres merveilleuses grâce à Dieu. Mais le conflit apparaît parce que là, Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Vous savez qui est ce personnage? C'est celui qui a écrit l'évangile de Marc. C'est celui qui a vraiment été un homme de Dieu par la suite. Mais Paul ne voulait pas l'emmener. Pourquoi? Parce que tout simplement, Jean, surnommé Marc, les avait abandonnés. Et c'est ce qu'il a dit au verset 38. Mais Paul jugeait plus convenable de ne pas prendre avec lui celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie, et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Vous savez qui est Paul, hein? Très carré. Vraiment, il est à 100%, je dirais même 200% pour le Seigneur, et il n'est pas légaliste. Hein? Bon, il était légaliste avant, mais il est plus légaliste. Mais cependant, voilà, il est quand même assez carré, et puis quelqu'un les a déçus, les a abandonnés, les a trahis. Là, ça l'avait marqué. Donc, pour lui, aucune chance, ou plutôt, il ne fallait pas justement prendre ce Jean qui pourrait les retarder ou qui pourrait leur amener des soucis. Or, pour Barnabas, il était important de le prendre, ce Jean surnommé Marc. Pourquoi? Parce que il faut donner une deuxième chance. Hein? Qui n'a pas besoin de deuxième chance? Après, il s'est dit aussi, sûrement, Barnabas a dû se dire, mais Paul, toi aussi, tu étais contre l'évangile avant. Le Seigneur t'a donné la chance, tu t'es converti, et même après la conversion, tu as fait plein d'évangélisations, mais avec balbutiement, avec peut-être maladresse. Et puis, il a dû, justement, faire quelques années d'études pour approfondir la connaissance de Dieu. Et puis, quelques années plus tard, quand il était à peu près prêt, c'est Barnabas qui lui a redonné la chance de venir à Antioche pour être responsable de l'église d'Antioche. Donc, c'est Barnabas qui a donné aussi une opportunité à Paul de servir Dieu pleinement. Donc, pour Marc, ne pas donner de deuxième chance à Marc, Jean-Marc, qu'est-ce que j'ai dit ? Barnabas, non. Si, je me suis emmêlé les pinceaux, non, c'est ça ? Les noms, oui. Alors, je recommence. Donc, pour Barnabas, ne pas donner de chance à Jean-Marc, enfin, Jean surnommé Marc, ce serait vraiment pas juste. Chacun avait leur conviction. Je pense que on pourrait comprendre les deux. On pourrait comprendre les deux. Paul avait aussi une certaine raison, parce que ça, on ne sait pas ce qui allait se passer, donc il voulait assurer que son voyage missionnaire se passe bien. Donc il voulait déjà, dès le départ, enlever les problèmes qui avaient causé dès le début, pendant le premier voyage. Et puis, Barnabas, lui, un fils d'exhortation, comme son surnom l'indique, il voulait de nouveau exhorter Marc à grandir dans la foi. Et puis, il se sépare. Et bien sûr aussi, certains disent, oh, parce que Barnabas et Marc, ils étaient des cousins. Donc, c'est pour ça qu'ils voulaient sûrement donner des privilèges. Non, je ne pense pas que ce soit ça vraiment. Enfin, bref. Par la suite, Paul prend Silas, Barnabas prend Marc pour partir dans deux endroits différents. Barnabas et Marc partent sur l'île de Chypre, alors que Paul entame son deuxième voyage missionnaire avec Silas. D'ailleurs, Silas était quelqu'un, non seulement, pour juste expliquer qui était Silas, c'est quelqu'un qui apportait les lettres que les apôtres avaient écrites et qui lisait aux différentes églises en parcourant toutes ces églises qui ont été déjà implantées. Et puis, il était aussi lui-même prophète. Donc, c'est quelqu'un qui avait vraiment la capacité, en tout cas, pour accompagner Paul. Et sachez aussi que, oui, c'est vrai, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Hein. Malgré cette tension, malgré cette scission, regardez Jean-Marc, au départ, pendant le premier voyage, il n'était juste qu'une aide pour les missionnaires. Là, il part comme un missionnaire, en fait. Il n'est plus une aide, mais plutôt un missionnaire avec Barnabas. Et puis, en tout cas, sachez, malgré... Oui, il y avait... Au verset 39, il a dit que ce dissentiment fut assez vif. Assez vif. Comment vous comprenez ça, assez vif? C'était assez violent. C'était assez violent. Pour être cause qu'ils se séparaient l'un de l'autre. L'un de l'autre. Il y avait une certaine sûrement colère, de fureur, indignation, incompréhension de l'autre. Mais malgré tout... Voilà, le Seigneur agit et qu'ils ont été, il ne faut pas non plus se dire qu'ils ont été rognés par l'Église, puisqu'ils ont quand même reçu la bénédiction de l'Église de Jérusalem pour partir. Ensuite, après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et chacun, à chaque groupe, au lieu d'avoir un seul groupe, déjà, Dieu a utilisé quand même ce conflit pour qu'il y ait deux groupes, etc., etc. Et qu'il y a eu des résultats formidables, puisqu'ils ont fait aussi un grand ministère sur l'île de Chypre. Vous savez que quand on n'a pas beaucoup d'événements dans la Bible, ce que Barnabas a pu faire avec Jean-Marc sur l'île, mais lorsque nous voyons l'histoire d'origine des églises de Chypre, on voit beaucoup de traces de Barnabas, où il est vénéré, respecté par les églises, par les chrétiens de l'île de Chypre, parce qu'il était un des premiers chefs de cette île et qui a accompli beaucoup, beaucoup de bonnes œuvres. Et puis de même, bien sûr, Paul, on n'en parle même pas de ce qu'il a pu accomplir avec Silas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, bien sûr, ils se sont réconciliés. Ils se sont réconciliés. Déjà avec Marc, parce qu'on voit bien que à Barnabas, pardon, on voit bien qu'il a été respecté. Dans 1 Corinthiens 9, 6, Paul dit, voilà, en parlant de son ministère, il disait que Paul et Barnabas c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Enfin, pour vous dire que, déjà, Paul prêchait souvent de Barnabas. Barnabas ne s'est jamais rendu à Corinthe, mais les Corinthiens connaissaient très bien aussi l'histoire de Barnabas. Et que sur ce, on peut bien sûr deviner qu'ils ont eu une réconciliation entre les deux. Et puis, avec Marc, dans Timothée 4, 11, il est dit, vers la fin de son ministère, Paul demande à Timothée, « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Et encore dans d'autres versets, il le considère comme son collaborateur. Ça veut dire que par la suite, il y a eu une réconciliation entre les deux et qu'il y a eu vraiment un grand ministère qui ont été accompagnés. Suite à ça, Marc a pu écrire, bien sûr, l'évangile de Marc. Voilà donc... Nous voyons que malgré les tensions qui peuvent exister, nous pouvons avancer ensemble et que lorsque nous fixons nos regards vers le Seigneur, le Seigneur transforme le bien, enfin le conflit en bien et qu'il peut vraiment nous faire travailler, nous faire grandir aussi à travers les difficultés et à travers les tensions. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et que malgré peut-être les frustrations que nous pouvons avoir, en tout cas, sachant encore une chose, le Seigneur est avec nous et que le Seigneur transforme le bien en mal, le mal en bien, pardon, hein, vous êtes bien réveillés, hein, j'espère, oui, et que continuez en tout cas à avoir cette vision de notre Église qui dit s'enraciner dans la parole, grandir dans la maturité et porter du fruit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons encore te remercier parce que tu es un Dieu qui transforme les événements ou les épreuves qui nous désavantagent par des bénédictions. Seigneur, aide-nous en tout cas à avoir un même sentiment en Jésus-Christ. Aide-nous à avoir cette humilité pour pouvoir regarder l'autre comme au-dessus de moi-même, pour pouvoir le respecter davantage, pour pouvoir le considérer davantage, puisque l'autre aussi, l'autre personne est aussi, son nom est écrit dans le livre de vie. Comme Paul, Barnabas et Marc qui se sont réconciliés par la suite, et Évodie Saint-Tiche, nous te demandons, Seigneur, de nous donner un cœur large pour vraiment avoir, enfin, considérer l'autre comme toi tu les vois. Merci encore pour ta présence. J'aimerais aussi te remettre pour la suite de notre Église. Tu vois qu'avec avec cette nouvelle situation, avec le nouveau règlement sanitaire, nous sommes un peu limités dans nos communions fraternelles et c'est vrai que nous restons aussi dans nos frustrations. Mais Seigneur, malgré tout, nous voulons avancer, Seigneur. Aide-nous vraiment à nous attacher à toi, Seigneur. Et que malgré peut-être ce contexte difficile, que nous puissions approfondir notre foi. C'est vrai, l'Église est ton Église et c'est toi le chef. Que tu veilles sur tes enfants au nom de Jésus. Amen.